Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Chaque semaine, nous nous retrouvons pour cet entretien hebdomadaire. Donc, et après avoir parlé des prêtres et de vos conseils presbytéral et pastoral, et puis la semaine dernière, nous parlions de la formation des séminaristes, je vous propose cette semaine, Monseigneur Mika, de parler des communautés religieuses. Dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, on compte de nombreuses communautés religieuses, 29 congrégations féminines, 20 communautés masculines, dont un certain nombre sont au service du sanctuaire de Lourdes, mais pas toutes. Nous comptons également des communautés contemplatives et puis d'autres communautés qui sont implantées dans les Hautes-Pyrénées au service du diocèse. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que ces communautés révèlent de notre histoire et de notre vie diocésaine.
Ben, sans aucun doute, une grande richesse de la vie chrétienne de notre diocèse et de notre région plus largement. Et de notre Église, beaucoup de ces communautés, alors pour ma part j'en ai compté au total, si on fait le compte des communautés monastiques, féminines, masculines, il y a 5 monastères du côté des femmes, une abbaye du côté des hommes, plus après toutes les autres communautés ou associations de fidèles, de droit diocésain ou de droit pontifical, fondées au 19e ou bien fondées communautés nouvelles ces dernières décennies. Enfin, il y a tous les cas de figure. Au total, j'ai compté une 60aine de communautés ou d'associations de fidèles qui sont un chemin vers un jour, peut-être, la reconnaissance du statut de communauté religieuse. Donc c'est une immense richesse qui témoigne, sans aucun doute, de la dynamique à l'époque des fondations de la vie chrétienne dans ce territoire, qui témoigne aussi de l'influence de Lourdes dans le monde entier et dans notre pays, puisque beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces communautés ont souhaité s'installer dans notre diocèse, mais s'installer plus précisément proche du sanctuaire de Lourdes.
Alors, ces congrégations, ces communautés, il y en a certaines d'entre elles qui sont au service du diocèse. Et cela pose la question aussi de votre autorité à l'égard de ces communautés. Quelle est l'autorité ou le rôle de l'évêque par rapport à ces communautés religieuses?
Alors, il faut considérer plusieurs cas de figure. Il y a des congrégations qui ont été fondées dans le diocèse, qui sont liées juridiquement à l'évêque, qui, par exemple, préside à l'élection du supérieur ou de la supérieure majeure de la communauté, ou préside l'ouverture d'un chapitre, ou exerce une vigilance parce qu'il y a un lien juridique entre l'évêque et les communautés qui ont été fondées dans le diocèse, ou qui sont, parce qu'elles sont jeunes, encore de droit diocésain et n'ont pas une autonomie juridique dans le droit de l'Église, en les reliant directement au Saint-Siège, par exemple, ce qui est le cas des vieilles communautés. Bon. Donc il y a ce type de considération. Ensuite, toutes les communautés, quel que soit leur statut et leur lien juridique à l'évêque proche ou pas, sont de toute façon sur le territoire dont l'évêque a la charge, et à ce titre, il est concerné par ce qu'elles y vivent, ce qu'elles y font. Et donc, quand une communauté vient s'implanter dans le diocèse et qu'une mission lui est confiée, par exemple, à ce moment-là, il y a des conventions passées entre les supérieurs majeurs de la communauté et l'évêque du diocèse pour déterminer le cadre de cette présence, les conditions matérielles, les conditions de la mission, la lettre de mission qui va être confiée soit à la communauté, soit à des membres de la communauté, la manière dont les prises en charge de rémunération, de couverture sociale sont assumées ou pas, par qui, etc. Tout cela est l'objet de conventions très très précises avec chacune de ces communautés.
C'est vrai aussi pour les communautés contemplatives ?
Alors, les communautés contemplatives ont un statut qui est d'ordre, qui est lié avec le Saint-Siège, avec les grands ordres religieux. Donc là, l'évêque n'a pas d'influence, entre guillemets, sur le gouvernement interne de la communauté, mais bien évidemment, sur le lien de la communauté avec le diocèse et l'éventuelle mission de tel ou tel membre de la communauté dans le diocèse, il y a une responsabilité. Il y a aussi pour les communautés féminines, il faut distinguer les communautés masculines qui ont une plus grande autonomie que les communautés féminines. Le droit de l'Église donne à l'évêque diocésain une responsabilité à l'égard des communautés féminines qu'il ne donne pas à l'évêque à l'égard des communautés masculines. Parce que dans la vision de l'Église, la place du sacerdoce ministériel fait la différence entre les unes et les autres. Dans une communauté masculine, par exemple l'abbaye de Tournai, il y a des prêtres, et le père abbé est un prêtre. À ce titre, il a juridiction pleine sur son abbaye. Alors que dans les communautés féminines, évidemment, il n'y a pas de prêtre, et donc c'est l'évêque qui joue le rôle de l'autorité sacerdotale requise, selon le point de vue de l'Église. Et donc, lorsque la communauté, qui par ailleurs a son autonomie, mais a besoin de poser des actes juridiques majeurs, la présence de l'évêque, ce n'est pas l'évêque qui décide, mais sa présence est requise. Par exemple, pour l'élection de la supérieure du Carmel de Lourdes, j'ai présidé cette affaire, cette opération, au mois de août dernier. Donc je suis là, je lis les constitutions, la partie des constitutions qui concerne l'élection de la prieure, et j'assiste à l'opération qui est menée selon les règles internes du Carmel, et ensuite je signe pour dire que tout s'est passé selon le droit, etc. Et il faut la présence de l'évêque pour ça. J'ai une responsabilité à l'égard des Clarisses, du monastère des Clarisses de Lourdes, actuellement, à l'égard des sœurs dominicaines de Lourdes, à l'égard des sœurs de la Visitation. Donc ce sont des communautés qui appartiennent à de grands ordres, qui ont leur indépendance, mais parce que l'évêque a une responsabilité juridique, canonique, précise, limitée mais importante à l'égard de ces communautés cependant.
Est-ce que vous avez déjà, depuis votre arrivée dans le diocèse de Tarbes-Lourdes et depuis votre ordination en tant qu'évêque de Tarbes-Lourdes, eu le temps d'aller rencontrer ces communautés ?
Alors oui, je crois que désormais je connais la plupart d'entre elles. On avait eu une très très belle journée fraternelle au mois de septembre, où pendant 1h30, chacune de ces communautés, très brièvement, s'est présentée. Et j'en connaissais déjà plusieurs, mais pas toutes, très loin de là. Et depuis, des rendez-vous ont été pris pour faire connaissance avec chacune, de manière très informelle, souvent très fraternelle, au cours d'un repas, d'une rencontre, de la célébration d'une messe, enfin, etc. Et voilà, je crois que je peux dire aujourd'hui que j'ai à peu près fait le tour de presque toutes. Il en reste encore quelques-unes que je ne connais pas, des petites communautés, des associations de fidèles, des choses comme ça. Mais vraiment, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et ça, ça fait partie de mon rôle aussi à l'égard de toute cette communauté, quel que soit mon statut juridique à leur égard, c'est celle d'un lien paternel, fraternel, spirituel, alors qui est délégué au délégué épiscopal chargé de suivre la vie religieuse dans le diocèse, qui est le frère Jean-Marcel Rossini, et puis la sœur Déborah pour une animation plus spirituelle, etc. Mais je suis évidemment très très présent à tisser ce lien, à entretenir ce lien avec elle et avec eux.
Voilà, alors c'est l'occasion aussi de les saluer, ces religieux et religieuses qui sont dans le diocèse d'Arbelourde, qu'ils soient dans les communautés contemplatives, donc cachés, mais priants pour notre église diocésaine, ou visibles. On pense par exemple aux carmélites à Bagnères de Bigorre, qui sont des carmélites apostoliques et qui sont impliqués dans la paroisse. Mais c'est vrai aussi, un petit peu partout dans notre diocèse, nous avons des frères et des sœurs qui sont actifs sur le terrain et qui nourrissent aussi la vie paroissiale.
Et la vie diocésaine, puisque plusieurs sont responsables aussi de services diocésains.
Voilà, alors nous passons, Monseigneur Mika, à notre deuxième point. Ce week-end, vous serez en visite à Bordères-sur-Échez, où vous célébrerez le deuxième dimanche de l'Avent. Est-ce qu'on peut parler d'une visite pastorale, ou est-ce que c'est une visite découverte de la paroisse de Bordères-sur-Échez ? Comment on qualifie ce genre de visite de l'évêque sur le terrain ?
Alors, c'est dans le cadre de ce que j'ai initié depuis mon arrivée, c'est-à-dire découverte du terrain, des gens, des communautés, des acteurs des communautés, des ensembles paroissiaux. Et donc, voilà, à Bordères, je ne suis pas allé encore sur ce secteur. Et à l'invitation du père Dorothée, qui est administrateur de la paroisse pour cette année, donc je vais rencontrer l'EAP et puis célébrer avec la communauté paroissiale. Donc c'est pas encore une visite pastorale au sens formel, organisé d'une visite pastorale où l'évêque vient plusieurs jours, rencontre de manière systématique quasiment tout le monde. Voilà, donc c'est pas encore ça. C'est vraiment une première rencontre de découverte, même si elle est organisée solennellement par le père Dorothée et ses collaborateurs, ce qui me réjouit tout à fait. Mais voilà, c'est pas encore une visite pastorale. Ça sera quelque chose qui viendra plus tard, de manière plus organisée, plus systématique, et voilà, plus préparée. Là, c'est vraiment une rencontre de découverte, très, 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 très heureuse, très fraternelle, très simple, très gratuite, j'ai envie de dire.
Vous allez être accueilli par les membres de l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec l'EAP? Pourquoi c'est important de rencontrer ces personnes qui entourent le curé ou l'administrateur tout au long de l'année?
Les curés passent, la communauté reste. Et donc, dans l'ecclésiologie qui est mise en valeur par le Concile Vatican II déjà depuis 60 ans, et puis à laquelle le pape François nous renvoie de manière forte avec le synode qui est en cours, dans cette ecclésiologie-là, le curé, l'administrateur, n'anime pas seul la communauté chrétienne et doit le faire avec le concours de quelques fidèles de cette communauté, qui sont les membres de l'équipe d'animation pastorale ou paroissiale. Voilà. Donc c'est important pour moi de rencontrer ces gens parce que c'est eux qui sont les acteurs principaux, les témoins principaux de la vie de cette communauté chrétienne qui est confiée à mon soin pastoral et épiscopal de manière ultime et que je partage ensuite avec mes collaborateurs que sont les curés et les administrateurs paroissiaux. Mais eux passent alors que la communauté reste. Et donc, c'est très important de rencontrer ces collaborateurs-là parce qu'ils ont l'identité et la mémoire de la communauté dans le sang, dans la peau. Et donc, c'est un lien très, très important. Et puis, de repréciser avec eux le type de relation qui est à vivre au quotidien avec le pasteur, celui qui a la charge des âmes de cette paroisse. Bon, mais ils sont avec lui, non pas pour l'aider, parce qu'il ne pourrait pas faire tout seul ce qui, sous-entendu, serait l'idéal. Ils ne sont pas là pour aider le curé parce qu'il a trop de choses à faire et qu'il faut le soutenir, mais ils sont là pour porter avec lui la responsabilité pastorale. C'est le curé ou l'administrateur qui est nommé pour les aider, eux, à vivre et à animer la communauté chrétienne et sa mission. Ça, c'est la responsabilité des baptisés. Et le pasteur, il est là pour permettre aux baptisés de mener à bien cette charge, cette mission. Voilà. Donc, c'est repréciser un petit peu cette ecclésiologie-là, qui est l'ecclésiologie de l'Église, enfin, c'est un pléonasme, qui est la théologie de l'Église catholique.
Voilà, bien alors on salue donc ce travail fait par toutes les personnes qui sont engagées dans l'équipe d'animation paroissiale de leur paroisse. Et puis on est assuré qu'à Bordères-sur-Echesse, dimanche 4 décembre, vous aurez un accueil très chaleureux organisé par le père Dorothée et tous les membres de l'EAP. On termine, Mgr Mika, avec un sujet un peu plus décalé, un peu plus léger, disons, en cette période de la Coupe du Monde de football. On avait envie de s'interroger sur le lien entre le sport et la religion. Mais d'abord, une question toute simple. Est-ce que vous aimez le foot? Est-ce que vous la suivez, cette Coupe du Monde, Mgr Mika?
Alors, vous savez, je suis du Sud-Ouest. Alors, j'ai plus d'acquaintance spontanée avec le rugby qu'avec le foot. Mais enfin, cela dit, il m'arrive quand même de regarder les matchs et puis d'être heureux quand la France marque un but.
Voilà. Alors, dans le sport, on retrouve, enfin, en tous les cas, on revendique dans le sport des valeurs qui sont des valeurs de fraternité, de convivialité, de respect. Ce sont des valeurs qui peuvent être communes avec la foi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Mgr Mika?
Ben, déjà, Saint Paul a repéré qu'il y avait là un tremplin intéressant dans le domaine du sport, pour faire comprendre des choses de la vie chrétienne, de la vie de foi, de la manière dont un être humain doit s'entraîner pour suivre le Christ jusqu'au bout de la course. Et voilà, donc déjà lui propose quelques images, et puis depuis, beaucoup ont continué. Moi, j'aime bien dire que la course est gagnée quand le plus faible a passé à son tour la ligne d'arrivée et que ça sert à rien de courir très 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 vite devant de manière égoïste et solitaire parce que la course n'est gagnée que quand le dernier a passé la ligne. Et donc, ben voilà, il y a des sports qui soulignent cela de manière plus évidente et il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, le rugby, je trouve, et symboliquement un sport très chrétien dans la mesure, alors je ne parle pas des coups qui se donnent dans la mêlée, hein, mais je fais allusion aux différents gabarits requis pour qu'une équipe de rugby soit performante. Il faut des grands, il faut des petits, il faut des rablés qui courent vite, il faut des costauds qui font le poids dans la mêlée, etc. Et je trouve intéressant symboliquement qu'une équipe de rugby performante doit comporter tous les styles et tous les gabarits. Je trouve que c'est une belle image de l'Église.
Voilà, on a bien compris que on attend avec impatience, vous attendez avec impatience le prochain tournoi de rugby. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. La semaine prochaine, vous serez en compagnie de Vincent Némon pour cet entretien hebdomadaire. Nous vous souhaitons un bon deuxième dimanche du temps de l'Avent.
Très bonne semaine à tous.